Je vais essayer de vous présenter quelque chose de général sur la question territoriale, parce que c'est souvent un peu mystérieux. Alors, comme il y a un certain nombre de ce que j'ai entendu d'entre vous qui sont plutôt historiens, sont peut-être moins familiers avec les questions territoriales, mais vous verrez que la question territoriale, on peut la prendre comme question économique, mais qu'il y a de l'histoire et qu'il y a de la géographie là-dedans, de façon assez forte. Il peut y avoir beaucoup d'inattendus dans une carrière universitaire. Donc moi, à l'origine, je suis un économiste qui a travaillé sur, qui était dans les années 70, ce qu'on appelait un militant tiers-mondiste, c'est-à-dire qui avait une prédilection pour les questions de développement économique dans les pays dits du tiers-monde à l'époque. Bon, maintenant, on ne parle plus de tiers-monde. On dit, c'est plus vague, on dit les Suds. Alors, on sait encore moins ce que ça veut dire, mais c'est les Suds. Bon. Donc ça stigmatise les Suds aussi par rapport au Nord, mais bref. Donc j'étais intéressé par ces questions-là. J'ai fait une thèse de troisième cycle sur l'agriculture en Algérie, 20 ans de révolution agraire en Algérie. J'ai fait en même temps un diplôme de Sciences Po, puis sur ces entrefaites-là est arrivé le 10 mai 81. Alors la plupart d'entre vous n'étaient pas de ce monde, mais le 10 mai 81, il s'est passé un événement historique intéressant. Mais ce qui était qu'il y a eu tout d'un coup une flopée de députés socialistes. Et là, il a fallu leur trouver des assistants. Et moi, il se trouve que j'étais à ce moment-là, au moment où je sortais, j'avais fait ma thèse de troisième cycle, mais je n'avais pas de boulot. On m'a dit, si tu veux rentrer à l'université, il faut faire une thèse d'État. Donc je me suis retrouvé assistant parlementaire. Donc Pélénope Fillon, c'était ma collègue. Mais moi, c'était en vrai, quoi. Et l'être en 1980, ce qui a été très intéressant, c'est que en 82 et 83, il s'est passé une série de lois qui s'appellent les lois de décentralisation. Donc vous imaginez un jeune type qui sort son diplôme, qui se retrouve au moment de la décentralisation, assistant parlementaire, et au moment de la crise, de la première crise de l'industrialisation en milieu rural depuis les Trente Glorieuses. Alors ça m'a complètement ouvert les yeux, moi qui m'occupais plutôt de l'Afrique. Je me suis dit, mais et si on essayait d'appliquer en quelque sorte les théories du développement qui avaient cours à l'époque à la France, alors que traditionnellement, on réservait les questions du développement, c'était pour les pauvres, le Sud, et la question de la croissance, c'était pour les pays développés, riches, etc. Forcément, il y avait entre 6 et 7 points de croissance en France à l'époque. Donc c'était le développement, ce n'était pas le problème. Et finalement, le développement devenait le problème avec la désindustrialisation. Donc je me suis retrouvé à un moment historique où j'ai pu découvrir ce que ça pouvait être que le territoire. Et du coup, j'ai essayé de faire, avec d'autres, une théorie du territoire, du développement territorial. Alors aujourd'hui, développement, vous l'entendrez de moins en moins en sciences sociales. On parle plutôt de l'innovation, innovation par-ci, innovation par-là. Et le dernier mot à la mode, c'est transition. Moi, j'étais en licence d'éco à la fin des Trente Glorieuses. On ne parlait pas de transition, on parlait de crise. Donc on pensait les mutations à travers le mot crise, rupture brutale, etc. Maintenant, on pense plus à la crise, alors qu'il y en a une belle en 2008 quand même, et que les crises sont récurrentes, car comme vous le savez peut-être, pour ceux qui ont peut-être quelques rudiments d'économie, il y a un cycle économique qui s'appelle Kondratiev, qui suppose que tous les 80 ans, à peu près, il y a une crise. Eh bien, ce qui est complètement fascinant, c'est que ça continue de marcher. Parce que si vous faites à peu de choses près 2008 moins 80 ans, ça fait la crise de 29. Donc ça colle. Ça colle. Donc on a vraiment rythmé par des cycles, etc. Donc voilà pour la découverte, finalement, la bifurcation que j'ai faite. La première, c'était de m'intéresser à la désindustrialisation et à la décentralisation en France. Plutôt que de s'occuper des pays, notamment l'Afrique. Et puis, La deuxième, c'était une question disciplinaire. On me dit, si tu veux faire du développement économique et renouveler les théories économiques, alors que les théories économiques de développement sont un peu en baisse de forme, quoi, dans l'université, tu ne feras jamais une carrière en économie. Donc j'ai changé de section. Et je suis maintenant dans la section 24, qui est celle de l'aménagement et de l'urbanisme. Et je m'en porte très bien, d'ailleurs. Parce que j'ai trouvé de l'ouverture d'esprit. Et puis j'ai découvert aussi un monde mystérieux qui s'appelle la géographie, avec des aspects que je ne connaissais absolument pas, comme le monde de la cartographie, par exemple, qui est vraiment peut-être une des plus belles découvertes que j'ai faites. C'est fascinant. Mais du coup, comme je disais à midi, quand je suis en présence de géographes, je montre surtout rien, parce que je me fais engueuler, parce que je ne suis pas un vrai spécialiste, je ne suis pas du sérail, quoi. Voilà. Mais cela étant, vous voyez que c'était un peu brouilleux. Puis alors, un peu tortueux, et dans ma carrière, j'ai également fait un peu de politique, puisque j'étais adjoint au maire de Grenoble, qui est quand même une ville de 150 000 habitants dans une agglo de 450 000, et de 95 à 2001. Et ça m'a donné peut-être une compétence de terrain pour parler des élus. D'abord, je peux dire du mal des élus parce que je l'ai été moi-même, ce qui est quand même très confortable. Il y a de quoi faire. Mais également, c'est un moyen de voir sur le terrain comment ça se passe. Et notamment le pouvoir local. Hein. Vous disiez tout à l'heure que les historiens qui parlaient sur des zones restreintes, c'était ringard. En économie, c'est pareil. C'est complètement ringard de s'occuper des territoires. Mais c'est la mondialisation qui est intéressante et tout ça. Et alors que c'est justement dans le phénomène territorial, ce que j'ai essayé de montrer un peu, qu'on va trouver un certain nombre de vérités et un certain nombre d'explications du réel. Voilà. Alors maintenant, je me suis stabilisé dans un institut de géographie alpine. Je pense que c'est bon, vu que je prends ma retraite l'année prochaine. Je n'en bougerai pas. Alors je me suis dit, bon, avec ça, on va essayer de contribuer à une théorie du développement territorial. Mais évidemment, pour ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le territoire. Et là, il y a une ambiguïté première qui est intéressante. C'est que le territoire, on en parle, ça rentre dans le vocabulaire. Au début, les anglo-saxons ne savaient pas ce que c'était que le territoire. Ils ne savaient pas ce que c'était que le terroir non plus, puisque en anglais, le terroir se dit « terroir ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de mot pour le territoire en anglais. Ils ne savent pas exactement le dire. Donc c'est les concepts très français, ça. Et le concept de territoire est très français aussi, au départ. On commence à avoir des territories au sens où on l'entend dans la littérature anglo-saxonne, mais c'est quelque chose d'encore relativement nouveau. Donc d'où ça vient? Alors c'est vrai que la décentralisation a été un choc dans la société française en donnant des prérogatives aux collectivités territoriales qu'elles n'avaient pas avant. Et donc il y a eu tout le développement de ce qu'on appelle la politique publique locale. Donc les politiques publiques, c'était réservé aux États. Action sur les structures, c'est-à-dire capacité. Une collectivité territoriale, elle a une assemblée élue et elle a un budget. Et elle peut voter des impôts. Vous voyez que ça chahute en ce moment avec le président de la République qui veut enlever un certain nombre de taxes que touchaient les communes. Et c'est pas du tout neutre, ça. C'est important. Parce que du coup, avec ce pouvoir local, il y a une capacité de tenter de peser sur l'économie du coin avec ce grand malheur qui a commencé dans les années 80, qui est la désindustrialisation des campagnes françaises, où il y avait une densité de petites et moyennes entreprises très forte. Et qui aujourd'hui, ça s'est accéléré en 82 et avec la politique de rigueur, enfin ça coïncidait avec la politique de rigueur, et puis ça repart de plus belle, là, depuis quelques années, où on voit malheureusement des communes qui ont subi l'exode rural, auquel s'ajoute la désindustrialisation. Donc là, le maintien de l'industrie a freiné un peu les conséquences néfastes de l'exode rural, mais avec la désindustrialisation, on a l'impression que c'est un pan entier de les forces vives en milieu rural qui se désintègrent. Alors, je dirais que la question territoriale, c'est une question un petit peu d'espoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel pour les zones rurales de s'en sortir avec les dynamiques territoriales. J'ai essayé d'expliquer ça. Mais tout ça, toujours dans le caractère, comment dirais-je, contextuel des choses, on assiste à une crise des politiques publiques locales. Mais ce n'est pas une crise parce qu'ils n'ont plus d'argent. C'est une crise de sens. C'est-à-dire, si on fait ce que j'ai essayé de faire, mais pas quantitativement, ce serait un travail très long à faire, l'année prochaine, à la retraite peut-être, c'est un bilan des politiques publiques en matière d'économie dans toutes les communes de France. Le bilan est carrément mauvais. C'est-à-dire, quelquefois, on finit par se demander, et si on n'avait rien fait, est-ce qu'on ne serait pas au même endroit, dans la même situation? Ce qui est quand même une interrogation qui pèse lourdement sur ces politiques. Et alors pourquoi? Ces politiques, elles se retrouvent aujourd'hui en compétition avec des initiatives d'acteurs territoriaux. Alors pour expliquer ça, je vous propose quelque chose avec une référence un peu historique qui est l'apparition des communs, des biens communs, à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1760, je ne sais plus les enclosures, 74 ou 75 par là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est en gros l'invention de la propriété privée, c'est-à-dire on enclôt des terres qui sont communes, où les paysans sans terre, qui ont des animaux mais pas de terre, peuvent paître, etc. Enfin, faire paître leurs animaux, pardon. Et si on clôt, les gens sont rejetés à la ville. La formation du prolétariat dans les villes, à Londres en particulier, parce que c'est en Angleterre qu'on a commencé à le faire, on a inventé une machine à rejeter des gens par la clôture et à rejeter des gens pour faire du prolétariat dans les usines et le démarrage de la révolution industrielle à ce moment-là. Donc les communs, qu'est-ce que c'est par rapport au public et au privé? Si je prends un point de vue d'économiste, mais on peut expliquer ça assez simplement, le privé, ça appartient à des propriétaires. Le public, ça appartient à tout le monde. Et c'est géré par l'État, qui est l'émanation de tout le monde. En théorie, bien sûr. Et il reste le commun, eh bien, ça n'appartient à personne. C'est-à-dire, en particulier, des aménités qui nous sont données, mais sur lesquelles il peut y avoir des entreprises privées qui prélèvent. L'air pur que l'on respire, il appartient à personne. Par contre, il peut y avoir des entreprises privées qui polluent et qui, polluant, eh bien, nous coupe l'air pur. Et à ce moment-là, ces communs disparaissent. Alors, il y a les communs que l'on fait, qui nous sont donnés par la nature, qui sont les aménités. Mais il y a également, vous prenez par exemple les poissons dans la mer. Au départ, les poissons dans la mer, c'est à personne, on peut aller pêcher. Ce que disait Marshall Salins, l'âge d'abondance. L'âge d'abondance, c'est-à-dire on avait à disposition une terre avec des richesses, des ressources naturelles, des ressources à notre disposition. Et puis la pêche, par exemple, au bout d'un moment, les poissons dans la mer sont devenus des biens privés encadrés par du public, par l'État. C'est-à-dire c'est devenu privatisation d'abord, on fait des chalutiers de plus en plus importants, on ramasse les poissons de la mer. Et c'est une privatisation d'un bien commun. Et puis ça aboutit à de la surpêche, disparition d'espèces. Donc il faut tenter de contrôler tout ça. Et à ce moment-là, c'est l'État qui va contrôler ça. Et donc on peut dire qu'on a, en gros, dans notre fonctionnement économique, des ressources qui nous viennent naturellement, des ressources que l'on produit, qui sont des biens privés, et une réglementation et certains produits ou services réservés à l'État. Par exemple, l'usage d'une route, s'il n'y a pas de péage, n'y a pas de privatisation. La route est construite pour que tout le monde puisse, à concurrence de l'embouteillage, bien entendu, tout le monde peut circuler en même temps sur la route. Il n'y a pas de rivalité d'usage entre les deux. Donc voilà à peu près les trois types de biens et services qui existent. Et c'est le rapport entre les trois qui bouge. Et la partie publique perd de son sens parce qu'il y a une montée de la recherche des communs. Alors ça, c'est en gros des acteurs. Et c'est peut-être un des phénomènes issus de la décentralisation. C'est l'apparition des acteurs. Avant, en économie, on ne parlait pas des acteurs, on parlait des agents économiques. Un agent économique, c'est une entité abstraite qui ne pense pas, qui ne peut pas faire deux actions à la fois. C'est le ménage, par exemple. C'est une entité statistique qui ne sait faire qu'une seule chose, consommer. Mais il va y avoir un autre agent qui va être le producteur. Alors lui, c'est faire que je produire. Bon, ce ne sont pas des vrais gens, comme on dit. Ce n'est pas tangible. Tandis que les acteurs, on va les retrouver, ce sont des êtres humains ou des associations qui ont une stratégie, qui peuvent se tromper, qui rentrent dans des conflits. Et il y a une montée pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et en particulier, ces acteurs, ils vont essayer de se débrouiller pour faire des projets de développement local. Et moi, j'ai assisté à beaucoup d'entre eux. Et dernièrement, il y avait dans le département de la Drôme un groupe de personnes et d'associations qui voulaient monter un projet de développement local. Puis au bout d'un moment, il y en a un qui a dit « il faudrait peut-être qu'on demande à nos élus ». Alors d'accord, parce qu'il y a une subvention, mais aussi parce que la règle, c'est quand même que c'est les élus qui commandent là-dedans. C'est eux qui vont faire l'action. C'est-à-dire que les citoyens, ils vont converger vers l'élu, et l'élu va faire l'action. Et c'est ce goulot d'étranglement qui est remis en cause aujourd'hui, à cause de son inefficacité aussi. Donc vous avez beaucoup de gens qui ont des problèmes existentiels avec les politiques publiques locales. Et donc on sent bien qu'on est dans une période historique où il va falloir repenser les politiques publiques à l'aune de cette montée des communs. Alors voilà un petit peu le contexte du moment. C'est pour ça que c'est peut-être une question intéressante à se poser, c'est peut-être le moment territorial. C'est-à-dire, je m'étais permis de faire un article là-dessus sur le tournant territorial en 2006. Mais bon, on n'est pas à 10 ans près, mais grosso modo, s'il y a bien un tournant, sans doute, et c'est intéressant de se poser la question, pourquoi on ne se met pas à parler de territorial dans un monde de globalisation ? Il y a 25 ans, on me disait, mais t'es fou de faire ça. On est dans un monde de globalisation et toi, tu veux nous faire du développement local. C'est complètement contradictoire. Alors ça, c'était une question, et c'était une des critiques qui étaient faites au développement local pendant longtemps. Et finalement, il y a un mode de raisonnement qui explique que ce moment territorial est justifié. C'est la comparaison entre inefficacité et efficacité et efficience. Alors, j'explique rapidement. On peut le prendre, par exemple, pour l'alimentation. Prendre l'exemple de l'alimentation. L'alimentation des citoyens français. On peut dire que les pratiques alimentaires sont efficaces. C'est-à-dire, être efficace, on se rapproche de ses buts. C'est produire pour tout le monde, donc en masse, et deuxièmement, à des prix raisonnables, c'est un objectif. Si vous êtes tout près de l'objectif, vous êtes efficace. Et puis, l'efficience, c'est à quel prix vous êtes efficace. Or, aujourd'hui, on est efficace, on continue d'être efficace, c'est l'agriculture dite productiviste, on continue d'être efficace, mais à des coûts croissants. Et notamment des coûts cachés qui ne le sont plus. C'est-à-dire que vous avez des productions, agroalimentaires en particulier, qui entraînent des coûts. Mais tant que ce n'est pas le producteur qui les paye, ça peut continuer. Par exemple, l'agriculture qui introduit des produits divers dans les nappes phréatiques, elle va produire des algues tueuses sur les plages de Bretagne, Mais ce n'est pas l'agroalimentaire breton qui paye. Donc, ils restent compétitifs pour exporter, etc. On continue. Puis tout d'un coup, si on commence à leur dire, attendez, les touristes des communes qui ont des plages infestées par les algues, ils en ont marre de payer. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais ça va donner l'installation des portiques, les bonnets rouges, et on défonce les portiques. Une espèce de logique, vous vous rappelez de cette histoire des bonnets rouges ? Eh bien, c'est je rétablis la vérité des coûts, et tout d'un coup, ça devient impossible de tenir la route. Autrement dit, l'inefficience bousille l'efficacité. Vous avez beau avoir un système capitaliste en général très performant, sa performance, elle va être contrariée jusqu'à un certain point par l'inefficience. Donc ça veut dire que c'est à des coûts de plus en plus, notamment des coûts de santé publique, par exemple. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous prenez l'alimentation, vous mettez ça en corrélation avec l'obésité, avec la croissance des diabètes dans les villes. On a fait des études, d'ailleurs, dans Frugal, on essayait de regarder ça. Eh bien, c'est directement le mode de produire pour tout le monde, donc en masse et à des prix raisonnables, fait qu'on va avoir des problèmes de santé publique. Et si ces problèmes de santé publique deviennent de plus en plus importants, eh bien, ça va freiner le système. Alors, vous pouvez appliquer ça partout. Et c'est peut-être aussi parce que le dernier élément dans l'ensemble de l'explication, c'est la question environnementale. C'est-à-dire que le système est un système fondamentalement de prédation sur la nature. Et d'ailleurs, la théorie économique est intéressante de ce point de vue-là. Elle ne parle pas de l'origine des ressources, elle parle des dotations de facteurs. C'est-à-dire, vous dites à un économiste, par exemple, comment on va s'y prendre pour essayer de développer telle région. Alors, il commence par vous dire qu'est-ce qu'il y a. Où sont les ressources? Et, là, ça va être dur, il n'y a pas assez de ressources. Ou bien, là, il y a plein de ressources, ça va être facile. On parle des... La nature a doté les territoires plus ou moins de ressources de façon inégalitaire. Et donc, on part de ça. En réalité, nous, aujourd'hui, on est dans une situation où les ressources, même si elles sont là, ce n'est pas forcément le développement. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on vivait donc dans le prélèvement sur la Terre. Et aujourd'hui, ce prélèvement, vous avez vu dans les journaux, c'est une fois et demie l'énergie disponible sur la Terre. Et ça va être de pire en pire. Donc on prélève sur la bête, si j'ose dire. Et si bien que le système est voué à l'échec à terme. Et c'est sur la base de ce raisonnement que le développement territorial peut avoir un sens. C'est-à-dire, mais il doit être forcément respectueux de l'environnement. Mais le développement territorial n'a de sens que s'il est comme une solution à cette, impossibilité de continuer du système. Alors, pour aller encore plus loin sur cette idée de solution, je vous montrer que, d'abord, si on regarde les définitions du territoire, le territoire, c'est en fait une machine à résoudre des problèmes. Pourquoi c'est une machine à résoudre des problèmes ? Parce que ma définition du territoire, celle que je vous propose, je suis encore dans le temps imparti, là, c'est un certain nombre d'éléments. Il y a 4 éléments. Premièrement, c'est un concours d'acteurs. Et non pas coordination entre les agents. Un concours d'acteurs, ça veut dire qu'ils concourent, donc qu'ils se rencontrent. Et deuxièmement, ce sont des acteurs, c'est-à-dire des personnes humaines. Alors le fait qu'ils se rencontrent, ça pose le problème de la rencontre des acteurs. Dans le développement économique, depuis des décennies, vous avez tout un tas de portions de la société qui n'ont pas droit au chapitre sur la question du développement économique et de l'économie en général. Il y a un sociologue, on ne sait pas trop si c'est un sociologue, un économiste, mais enfin c'est un génie à mon avis, qui s'appelle Albert Hirschman, qui était issu de la Vienne de la fin du 19e siècle et émigré aux États-Unis dans les années 30, qui a un modèle de développement qui s'appelle le modèle Exit Voice, et qui dit que finalement, dans la démocratie du XXe siècle, en tout cas, et encore aujourd'hui, dans cette démocratie, la régulation entre les personnes, pour ce qui est de répondre à leurs besoins, c'est le marché. Mais le marché, c'est embêtant parce que c'est un mode de fonctionnement qui ne fabrique pas de la société. Un marché, c'est quelque chose qui détermine un prix pour acquérir des objets dont vous avez besoin ou pour les vendre. Mais un marché n'a pas de mémoire. Par exemple, vous êtes très copain avec votre boulanger. Vous allez tous les matins chercher une baguette tradition, c'est meilleur. La baguette tradition, elle a un prix. L'intérêt, c'est que vous connaissiez parfaitement votre boulanger ou que ce soit la première fois, il n'y a pas de mémoire. C'est-à-dire vous faites comme si vous ne le connaissiez pas parce que le prix sera toujours le même. Autrement dit, la discussion avec le boulanger ne va pas modifier le prix. Le prix, il est fixé ailleurs. Donc les agents sont extérieurs à l'échange et à la coordination qu'ils font. Donc on repart à zéro à chaque fois qu'on réachète quelque chose, même si c'est avec la même personne. Donc il n'y a pas de construction, contrairement à la réciprocité, par exemple, dans les milieux ruraux traditionnels. La réciprocité, c'est une construction sociale, parce que c'est un système de, dans les théories de Marcel Mauss, c'est un système de don contre don et donc de dette. Et lorsque vous êtes en dette et qu'il va falloir rembourser sa dette, vous êtes dans la société. Dans des situations différentes, les dettes sont multiples. Tandis que dans le marché, il n'y a pas de dette, on paye cash. Si vous voulez ne pas payer tout de suite, il faut acheter autre chose, ça s'appelle le crédit, pour pouvoir obtenir de ne pas payer cash. Autrement, c'est du très court terme. Donc une société ne s'élabore pas à partir du marché. Or, le système dit fordiste, c'est l'extension du marché à toute la société. Comme si vous aviez ce qui est prétendument faire du lien dans la société, c'est une vaste gomme qui efface les liens entre les gens au fur et à mesure qu'il s'étend. Donc, à un moment donné, il y a un besoin de rencontre entre les acteurs qui dépasse le marché. Donc, il y a un besoin de reconstruire une société, notamment autour de l'échange. Et donc, c'est ça, le concours d'acteurs. Deuxième élément de la définition, le concours d'acteurs a un référent spatial. Alors ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est justement ce qui me fâche avec un certain nombre de mes collègues restés économistes seulement, c'est que la proximité, vous savez qu'on parle beaucoup de la proximité aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire revenir les agriculteurs proches des villes, etc. La proximité, c'est bien, ça crée des externalités positives, etc. Mais en disant la proximité géographique, c'est une chose parmi d'autres. Le fait d'être près les uns des autres, ça s'appelait les effets d'agglomération, mais qu'il y a des tas d'autres sortes de proximités, par exemple ceux qui sont dans un réseau virtuel et qui échangent entre eux, même Facebook. Alors ça, c'est pas spatialisé. Donc, en fait, la proximité géographique, il n'y en a pas partout. C'est même peut-être épiphénoménal. Et donc, mon opinion est tout autre. C'est-à-dire que dès qu'il y a échange, il y a une société. S'il y a une société, il y a de la géographie. Une société hors sol, ça peut être pensé peut-être chez un romancier de science-fiction, où les gens seraient virtuellement en contact entre eux. Dès qu'il y a de l'échange, même s'il est lointain, il y a un moment donné où on atterrit sur l'échange. Même si vous êtes dans les réseaux, il y a des concrétisations qui peuvent être au cœur de l'échange ou qui sont aux marges. Mais il y a un moment où le contexte importe. Et puis le deuxième aspect du contexte géographique, c'est que vous avez des productions indépendantes du contexte géographique et vous avez des productions qui dépendent du contexte géographique. Alors celles qui ne dépendent pas du contexte géographique... D'ailleurs, j'avais pris un mauvais exemple auprès des étudiants. Pendant 10 ans, je leur ai dit, vous prenez des boulons. Et les boulons, fabriquer des boulons, on peut le faire n'importe où. Il n'y a pas de contexte géographique. Il y a uniquement des coûts de production. Autrement dit, dans les théories de la localisation, pourquoi une usine, elle est installée là plutôt que là? La seule explication, c'est que là, c'est moins cher que là, à produire. coûts de production différents. Mais le fait qu'il y ait un contexte de montagne ou qu'il y ait un climat particulier, etc., aucune importance. Et puis, alors ça reste vrai pour un certain nombre de productions. Et puis je suis allé dans une petite vallée de la Semois, qui est une vallée adjacente de la Meuse, où j'ai vu un district industriel de boulons. Alors évidemment, ça a cassé mon exemple. Donc, c'est quoi un district industriel de boulons? C'est un rassemblement où on a 40 à 50 entreprises dans la fabrication de boulons qui résistent au niveau international, qui restent compétitives, et on explique leur efficacité par la culture du lieu, par le fait que depuis longtemps, que d'abord au XVIIe siècle, c'était des cloutiers fabriquaient des clous, et qu'il y a une continuité historique, et également, non seulement la continuité historique, mais l'idée de coopérer. Alors, c'est des coopérations négatives, hein. C'est-à-dire, comme on dit, c'est des taiseux, c'est-à-dire, c'est des gens, ils ne se parlent pas, ils disent qu'ils ne se connaissent pas, alors qu'ils se connaissent parfaitement. Ils pratiquent l'espionnage aussi. Une histoire marrante qui est... ils réussissent à se mettre d'accord pour avoir un camion et mettre plein de pièces ensemble pour expédier collectivement. Et il y en a un qui s'arrange pour être le dernier, de façon à ouvrir les sacs des autres pour voir où est-ce qu'ils... et regarder les étiquettes pour savoir où est-ce qu'ils exportent. Donc, ils ont des relations, c'est pas toujours le grand amour, mais c'est une relation de forte coopération, qui ressemble beaucoup à de la réciprocité, d'ailleurs. Donc voilà, j'avais un exemple où même dans les boulons, on pouvait arriver à mettre de la géographie là-dedans. Alors, bien sûr, il reste beaucoup de productions qui se délocalisent. Et si elles se délocalisent, c'est que les conditions du contexte géographique ne sont pas suffisamment puissantes pour les retenir. Et que les coûts de production, évidemment, lorsque pendant très longtemps... ben je crois que c'est en Normandie qu'il y a Moulinex... ou qu'il y avait Moulinex, ouais. Et donc, pendant longtemps, ils ont fabriqué des cocottes minutes spéciales pour la cuisson du riz à destination du marché chinois et 20 fois plus cher que les Chinois. Et ça a marché au moins une dizaine d'années. Et ça, c'est les délices des contradictions de l'industrie française. Alors, ils n'avaient aucune chance. Donc, au bout d'un moment, ça s'est évidemment cassé la figure. Mais on a souvent subventionné des gens à l'autre bout du monde pour compenser les bas salaires. Alors, donc, on voit que dans une production comme ça, il n'y a aucune spécificité. Donc, ça peut partir. Et ça part de plus en plus. Alors là, je viens de prononcer un mot important. C'est la spécificité. C'est-à-dire que, du coup, c'est un produit qui ne doit rien à son contexte géographique et culturel. Il doit tout... aux pratiques, à la façon de fabriquer, au coût, etc. Donc, il est complètement victime de la globalisation, et donc il s'en va dans les pays à bas salaire. Mais il y a tout un pan entier de ce que l'on peut fabriquer qui peut être recentré en trouvant sa spécificité. Alors là, depuis quelques années, on a vraiment un grand mouvement pour retrouver sa spécificité. Parce que sinon, avec le système des vases communicants, vous imaginez une industrie. Vous allez à Détroit, aux États-Unis. La ville avait 2,5 millions d'habitants. Elle en a 800 000 aujourd'hui. Et elle est en effondrement. Alors elle se redresse actuellement, justement, par plutôt le fait associatif que par l'État. Par l'État, elle est mise en liquidation. Et il y a un administrateur... qui gère les comptes de la ville. La sécurité n'est plus observée, etc. Enfin, je pourrais raconter plein d'anecdotes sur Détroit. Ce qui est intéressant, c'est que Détroit, c'est le symbole du Fordisme, parce que c'est quand même le siège de la Ford et le siège de la General Motors qui sont là-bas. Et c'est une ville qui s'est effondrée sur elle-même. Donc, vraiment, le système a disparu. Et c'était un système qui était complètement générique, mais parce que les bagnoles ont continué d'en faire, et de plus en plus, mais c'est plus là. C'est plus dans le cœur de la machine. Et vous avez beaucoup de... Si on est uniquement sur ce type de production, ben le monde va basculer, et comme une hémorragie, si vous voulez, l'industrie va s'en aller dans les pays à bas salaire. Et évidemment, ça, c'est sujet à des guerres. Donc on ne peut pas rester sur un type de... comment dirais-je, d'équilibre ou de déséquilibre comme ça, parce qu'évidemment, le théoricien économique du cycle long va vous expliquer, mais il n'y a pas de problème, parce que en Chine, il y a des délocalisations, mais du coup, ça fait remonter les salaires, et ça va nous rééquilibrer par rapport aux pays à salaire élevé. Mais ça, c'est avec des millions de morts, avec de la misère, avec etc. Tout un tas d'effets secondaires qui ne sont pas secondaires du tout. Donc, en fait, c'est impossible de raisonner dans ce genre de régulation automatique du monde. Et du coup, il y a des stratégies de récupération de son propre destin économique. Ces stratégies-là, c'est les stratégies territoriales basées sur la spécificité des espaces dans lesquels on est. Alors, il y a eu des mouvements, là, de ce type. Dans les années 70, on a découvert les districts industriels italiens. Alors ça, c'est, on dit deux mots, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes au courant de ça. Vous avez un grand économiste qui s'appelait Alfred Marshall qui avait une théorie sur la concentration du capital. Ça correspondait au début du XXe siècle, Ford, etc., c'est-à-dire les grandes entreprises. D'ailleurs, il y a eu une loi pour casser ça. Parce que la concentration du capital, c'est la mort du système. Et en 1901, il y a eu les lois antitrust aux États-Unis pour casser. Vous aviez Rockefeller qui possédait tous les chemins de fer, tous les transports par chemin de fer et toute la sidérurgie des États-Unis. Ben, du coup, c'est celui qui est en situation de monopole, s'il a tout, c'est lui qui dicte les prix. Le système est coincé, il ne peut plus marcher. Donc on a eu des lois pour casser ces aspects de monopole. Mais ce que disait Marshall, c'est que cette fatalité connaissait des exceptions. C'est-à-dire qu'il dit « Ah, mais il y a des endroits, à Solingen, en Allemagne, depuis le XVIIe siècle, on fait des couteaux, des ciseaux, et c'est un agglomérat de petites entreprises, il n'y a pas de grandes qui vont manger les petites ». Parce que le destin d'une petite, c'est d'être mangé par une grande, en général, en économie, entreprise. Mais là, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça a une efficacité redoutable. Alors après, les Italiens, ils ont dit, ah, mais nous, on en a plein des comme ça. Surtout dans les villes qui étaient des républiques au XIIe siècle et qui avaient une unité culturelle forte. Et ce sont devenus des endroits où on utilisait l'usage. On pourrait montrer d'ailleurs comment certains endroits, c'est un peu aléatoire, mais il y a des raisons historiques pour expliquer la performance d'un lieu. Juste les machines-outils dans la plaine du Pô. Pourquoi est-ce que les Italiens sont extrêmement brillants dans la machine-outils dans la plaine du Pô? C'est qu'il y a une conjonction. D'une part, l'aménagement des marais, et l'augmentation de la productivité dans l'agriculture avec la mécanisation sous le régime fasciste dans les années 20, la mécanisation de l'agriculture. Et en même temps, le régime de transmission patrimoniale qui est que l'aîné prend toute la ferme, mais le second, contrairement au cadet de Gascogne, l'aîné doit lui donner une somme d'argent compensatoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent compensatoire? Ils sont allés dans les villes. Et là, comme il y avait des tracteurs partout, ben ils se sont mis réparateurs de tracteurs, garagistes. Et de fil en aiguille, ils ont monté des PME qui sont parmi les plus performantes d'Europe sur la machine-outil. Donc là, on se dit, on ne peut comprendre une activité que si on fait appel à son histoire et à sa géographie. Sinon, on ne comprend rien. Et ce n'est pas parce qu'on payait moins cher les ouvriers à cet endroit-là. Alors c'est cet autre univers qui est l'univers non pas de la productivité, mais c'est l'univers de la spécificité, qui est celui du territoire. Autrement dit, des initiatives qui permettent de développer une activité en retrouvant une maîtrise par l'acteur autour de lui. Et sa spécificité, c'est son avantage relatif par rapport aux autres. Alors il y a des spécificités, il faut les gagner. Il y en a qui tombent toutes crues. Et puis, il y en a qu'il faut gagner. Alors, vous avez certaines spécificités qui sont dues à des effets d'aubaine. Mais les effets d'aubaine, ça ne marche pas souvent. Je vais vous prendre un exemple d'un effet d'aubaine. La grotte Chauvet, en Ardèche. On a trouvé des magnifiques grottes préhistoriques. Ces grottes préhistoriques engendrent 450 000 touristes par an. Il n'y a pas assez d'hôtels dans l'Ardèche. Donc, ils partent le matin de Lyon et ils font un tour. Et le soir, ils sont à Avignon. Mais il y a une journée pour les capter. Hein, ce qu'on appelle l'économie résidentielle. Et on essaie de capter les revenus qui viennent de l'extérieur. 450 000 repas. Ben, vous voyez la somme d'argent. À 20 balles le repas, ça fait pas mal de sous. Mais surtout, c'est qui va produire 450 000 repas ? Alors, vous avez deux solutions. Ou bien on demande à la Sodexo de faire 450 000 repas. Ils vont acheter de l'alimentation un peu n'importe où, en important, là où c'est le moins cher. Ils fabriquent les repas, ils encaissent le prix du repas et les profits s'en vont. Donc l'argent a traversé l'Ardèche. Il n'est pas resté. Et puis il y a une autre stratégie, mais qui est beaucoup plus difficile à mettre en place, qui est la stratégie territoriale, où alors là, il faut eh bien, organiser que les gens s'organisent. Et là, ce n'est pas une politique publique qui va le faire. Ou elle peut aider, bien entendu. Mais massivement, il faut qu'il y ait des citoyens qui se disent, et notamment des agriculteurs concernés. Parce que le problème des agriculteurs, c'est qu'ils n'ont pas assez de quantité. Donc il faut organiser 450 000 repas en l'espace de 4 mois, la saison touristique. Ça fait beaucoup et beaucoup de quantité. Donc il faut qu'ils se rassemblent entre eux, qu'ils s'organisent. Et là, il y a un vrai projet sur le long terme à mettre en place. Mais donc c'est pas gagné actuellement, hein, parce qu'ils ont du mal. Un autre exemple, c'est le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire, dans les années 60, on a remarqué que quand on a découvert du pétrole dans la mer Noire, ça a eu un effet de déprime sur le produit intérieur brut des Pays-Bas. Donc, autrement dit, quand vous voyez dans les journaux tel pays a du pétrole, a découvert un puits de pétrole, c'est en général une mauvaise nouvelle pour le pays. Alors que tout le monde pense que c'est super. Et c'est facile. Alors, je pourrais développer cette idée, mais c'est pour vous dire que les effets d'aubaine, il ne suffit pas d'avoir des ressources qui vous tombent du ciel. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de hold-up, par exemple. C'est-à-dire que le pays le plus riche du monde, vous savez lequel c'est ? Où il y a tout. C'est la République démocratique du Congo, où vous avez le revenu par tête parmi les plus faibles de la Terre. Et c'est pourtant, il y a tout. Il y a du diamant, de l'or, du pétrole, des terres rares même pour mettre dans les téléphones. Il y a tout. Mais il y a la corruption, il y a souvent dans ces pays-là l'armée qui fait un hold-up, conféré à l'Algérie. Et enfin, vous avez une démotivation au développement. Parce que le développement, c'est un effort collectif. Donc, si vous avez des sous qui tombent du ciel, plus d'effort collectif. En Algérie, on dit couramment que les pétrodollars, ça sert à acheter la paix sociale. Et non pas à se développer. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à se développer. Donc, la richesse qui vous tombe dessus, c'est très souvent un obstacle au développement. C'est un paradoxe intéressant. Mais qui montre que le développement, ça se construit. Et là, j'arrive un petit peu vers la fin de mon propos, qui dit que le développement territorial, c'est une construction. Donc quand on vous parle de territoire, tout le monde parle de territoire maintenant, il y a une ambiguïté. Quand un élu d'un département vous parle de son territoire en plus, c'est le territoire du département lui-même. C'est un découpage politico-administratif. C'est un territoire qui est donné, a priori. Tandis que le territoire, il peut exister. Enfin, des forces de territorialisation, elles peuvent exister ou pas, suivant la mobilisation des acteurs. Et donc, les acteurs doivent construire un espace répondant aux problèmes. C'est pour ça que je dis que c'est une machine à résoudre des problèmes. C'est que finalement, dès lors que vous avez un groupe d'acteurs, partiel, dans un référent spatial qui se pose la question et qui fait deux choses, qui révèle et met en œuvre la solution d'un problème, vous avez du développement territorial. C'est pas autre chose que ça. Mais c'est lourd, parce que j'ai prononcé deux éléments, la révélation et la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois que les gens se sont rencontrés, encore faut-il qu'ils se parlent et qu'ils révèlent leurs problèmes. La question majeure du développement, c'est que les gens ont beaucoup de problèmes, mais ils ne savent pas le dire, ils ne savent pas lequel. Si vous n'énoncez pas un problème, le problème n'existe pas. Il ne peut pas être résolu puisqu'il n'est pas énoncé. Et donc, les conseils de développement, toutes ces assemblées qui se multiplient, etc., c'est des lieux pour énoncer les problèmes qu'on a ensemble. Dès lors qu'une communauté de personnes qui ne correspond pas forcément à des collectivités territoriales, etc., se parle et se dit « on a un même problème commun à résoudre, on va essayer de le résoudre ». Mais à ce moment-là, naît la possibilité de créer un territoire qualifié par le problème. Et je pense que j'ai le temps de donner un exemple. J'avais fait des enquêtes dans le sud de l'Allemagne, il y a pas mal d'années. Il y avait dans un milieu de petits producteurs de pièces mécaniques, et ils avaient un gros problème d'apprentissage. Parce que l'apprentissage, ça demandait une année sur le tas. Donc on prenait le jeune en apprentissage, et il y avait un cadre qui était derrière lui, on l'aidait, etc. Et puis dès qu'il avait fini son stage, le concurrent proposait au jeune un salaire légèrement plus élevé et lui piquait la place. Si bien qu'au bout d'un moment, c'était impossible de recruter un apprenti formé. Et que celui qui avait eu la naïveté de former, ben, il était victime. Donc, ils ont eu l'idée de faire... Ils avaient un lieu de rencontre. Ça s'appelait le cartel du petit déjeuner. Donc, j'en ai déduit finement qu'ils se réunissaient plutôt le matin. Et là, ils se sont dit, on va effectivement faire une règle implicite. C'est-à-dire que les membres de notre territoire, donc ils n'ont pas dit comme ça, mais c'est ça que j'interprète, les membres de ce cartel vont décider de ne pas débaucher pendant 2 ans un jeune qui est en apprentissage dans une entreprise, dans notre territoire, dans notre espace. Donc, et création d'une règle implicite. Alors les règles peuvent être explicites aussi. Mais c'est souvent des règles implicites, on se met d'accord. Faisant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé un territoire. Parce qu'ils ont créé un dedans et un dehors. Il y a ceux qui vont respecter la règle et ceux qui ne vont pas la respecter. Ceux qui vont respecter la règle, dans le cadre géographique de la région de Böblingen, dans le sud de l'Allemagne, c'est un territoire. Et ce territoire, il est solution au problème. Puisque c'est le territoire qui rassemble les gens, qui applique la règle, qui va permettre d'avoir de l'apprentissage. Ce que le marché ne sait pas résoudre. Donc c'est une autre procédure que le marché. Et ce territoire, il est fragile. Parce qu'évidemment, le fin du fin, c'est de tricher. De dire oui, et de tricher. C'est élémentaire dans la théorie des jeux, hein, c'est le cavalier libre. Alors seul le premier qui triche gagne. Et ensuite, les autres ne peuvent pas parce que le truc se dissout. Et tout dépend, à ce moment-là, de la solidité de la sanction. Là, on est déjà dans la réflexion sur les conflits, etc. La solidité de la sanction, si la sanction est supérieure au gain à avoir triché, eh ben, le territoire résiste. Parce que les gens, ils ont dit, ouais, c'est quand même plus avantageux de respecter la règle, parce que là, on a un avantage par rapport aux autres, tandis que si je fais exploser le truc, je serai gagnant une fois, et puis, alors à ce moment-là, le territoire résiste. Mais dans de nombreux cas, le territoire ne résiste pas. Et dans des efforts, par exemple, je vous prends juste un exemple amusant qui est celui du camembert. Il y a eu une règle, ici, vous avez sans doute entendu parler de la guerre du camembert, quand Lactalis a racheté les camemberts, le petit, etc. Et là, on a vu la bataille pour l'AOC et le bras de fer. En fait, entre l'opportuniste et la règle. La règle, c'est pour avoir la hausse, il faut être au lait cru. Et tricher, c'est demander d'abord à l'INAO d'avoir le lait pasteurisé. Et si l'INAO, ce qu'elle a fait, refuse, eh bien, au lieu de mettre camembert de Normandie, on met camembert fabriqué en Normandie. On reprend la même étiquette, exactement. On enlève juste le label discret AOC, puis on met des tas d'autres labels bidons, testés par un panel de consommateurs, etc. Bon. Et alors, ça donne une guerre qui a donné des résultats, enfin, divers, on pourrait les développer. Mais ça vous montre bien que la construction territoriale, c'est le maintien d'un avantage. Mais que ce maintien d'un avantage, il n'est pas exempt de conflit. Et donc, ce processus de révélation, c'est la première partie Et ensuite, il y a la mise en œuvre. Mais si vous n'avez pas correctement défini quel était votre problème, vous n'aurez pas... Votre mise en œuvre va foirer. Et je vais terminer... Bon, c'est évidemment une introduction au territoire. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais l'idée que vous avez des territoires qui ont découvert leurs possibilités de façon relativement inattendue. C'est-à-dire que la ressource qui était dans le titre, la ressource territoriale, elle est parfois complètement inattendue. Alors j'ai deux petits exemples à vous proposer. Il y en a un qui est la ville de Dinan en Belgique, où vous avez plus de 1200 emplois, donc, mais ouais, un bon gros millier d'emplois dans la musique, dans les instruments de musique, dans les concerts, les écoles de musique, etc. Dinan en Belgique, c'est aussi la ville de la Dinandrie, donc travail des métaux. Et je me suis dit pourquoi. Sur 12 000 habitants, il y a 1000 emplois sur la musique. Alors on m'a expliqué, on m'a dit, monsieur Adolphe Sax est né à Dinan. Super. Mais enfin, c'est pas une raison pour être la ville du territoire. Alors en plus, la ville de la musique. En plus, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il a quitté la ville de Dinan pour ne plus jamais y revenir à l'âge de 6 mois, donc probablement accompagné de ses parents, et il n'avait pas encore inventé le saxophone. Mais ça fait rien. Les gens, ils ont pris une anecdote, et ils ont tiré le fil. Et ils ont fait cette économie-là. Donc ça veut dire, cet incident biographique, c'est le pétrole de Dinan. Et ça marche bien mieux que le pétrole. Mais il a fallu la construire, cette économie-là. Il a fallu la fabriquer. Donc on peut construire un espace géographique du saxophone, ou un territoire du saxophone, de façon construite, donc volontariste. Ça prend du temps, ça ne marche pas à tous les coups. C'est l'objet des projets de développement. Et en même temps, c'est quelque chose qui, au départ, en tant que ressource, pourrait très bien ne pas marcher. Et puis un deuxième exemple, qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est dans l'Oisans, massif de l'Oisans, à côté de Grenoble, il y a une station de ski au sommet qui s'appelle l'Alpe d'Huez. Et donc, c'est cette Alpe d'Huez qui a fait vivre tout le massif, avec les emplois qu'elle a produits. Aujourd'hui, il y a une stagnation. Donc, les gens ont commencé à se poser la question, mais ils se sont réunis. Il y a eu un concours d'acteurs, c'est-à-dire les assos, les gens qui travaillent dans le tourisme, les élus, les industriels, les représentants de l'État, vraiment l'ensemble des gens, y compris les sociétés de sauvegarde du patrimoine, etc., se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis tout d'un coup, il y en a un, mais il a fallu discuter. Il y en a un qui dit, mais le Tour de France passe à l'Alpe d'Huez pratiquement tous les ans. La montée de l'Alpe d'Huez, pour ceux qui connaissent. Et le Tour de France, c'est la troisième manifestation mondiale de sportive télévisée. Après la Coupe du monde de foot et les Jeux olympiques. Troisième, c'est le Tour de France. Ça fait 850 millions de personnes dans le monde qui regardent à la télé des gugus qui montent la montagne dans le paysage de l'Oisans. Ben, y a des gens qui ont dit, mais si on ne fait pas du business avec ça, c'est qu'on est des idiots. Je crois même qu'il a employé un mot plus fort que idiot. Donc, on voit bien que là, on a un potentiel auquel personne n'avait pensé. Et c'est très souvent comme ça dans le développement. C'est pas forcément l'évidence. Ah ben, il n'y a qu'à grossir la station, ou il faut trouver de l'argent public pour relancer la station, etc. C'est pas du tout ces solutions-là qui ont été recherchées. C'est un collectif concerné qui cherche des solutions dans ce qui est caché, dans ce qu'on ne voit pas de façon évidente. Et là, actuellement, ils sont en train de faire un mixte qu'on a théorisé à Grenoble comme étant des paniers de biens et de services, c'est-à-dire des ensembles de biens et de services, entre fabrication de pièces de haute technologie, profitant qu'il y a des labos de haute technologie à quelques kilomètres à Grenoble, de vélo, du vélo relancer le VTT, être la Bicycle Valley de l'Europe, avec les aspects touristiques, les aspects vélo, matériel, les aspects compétition sportive, tout mixé. Et ça donne une spécificité. Donc là, vous avez un exemple de recherche de spécification qui montre une certaine puissance à la question territoriale dans un monde mondialisé. Parce qu'on utilise aussi les ressorts de la mondialisation. Le fait qu'il y ait 850 millions de personnes et qu'on va tirer parti de ça, qui vont regarder le territoire à la télé, c'est bien la marque de la globalisation. Et donc le territorial s'appuie sur la globalisation pour réaliser des solutions aux méfaits ou aux contradictions de la territorialisation. Donc voilà en gros le projet. Donc vous voyez qu'en matière de sciences sociales, on touche un peu à tout. On est obligé d'avoir des référents historiques, hein, savoir d'où vient le patrimoine, en fait, qui va être utilisé à la spécification, des références géographiques aussi, pour notamment étudier ce patrimoine au sens large qui est spécifique localement. Et donc la spécificité, c'est un petit peu l'élément clé, et je terminerai en disant ça donne lieu à une littérature aujourd'hui, à tout un tas de mouvements, mais il y a une ultime ambiguïté qui est que beaucoup de gens considèrent que c'est des modèles alternatifs. Et là, il y a un mot, le mot alternatif est très dangereux, il faut faire très attention, parce que vous avez, en sciences sociales, on retrouve ce piège un peu partout. Alternatif, ça veut dire donc on a le système capitaliste et puis on va changer, puis on va avoir le système territorial. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est qu'on a des systèmes qui sont dépendants les uns des autres. Et que la solution, si vous retenez le tandem efficacité-inefficience, eh bien c'est on soigne l'un pour soigner l'autre. Et on a une cohabitation des deux modèles de façon à trouver une autre agriculture, par exemple, puisqu'on restant dans le domaine de l'agriculture, si on est sur le monde rural. Donc la métamorphose attendue par beaucoup du monde rural, c'est pas de passer d'un modèle à l'autre, mais c'est d'avoir je reprends des termes un peu religieux, mais la transfiguration du monde rural par l'action de la territorialisation comme processus permanent, en quelque sorte. Et ça donne un jour nouveau à ces mutations-là. Et du coup, ça me fait retomber sur la problématique des crises et de la transition. On est plus dans de la transition que dans de la crise ou de la gestion de crise. Voilà.